Supposons un corps en mouvement, influencé par des forces constantes et changeantes. Le plus simple moyen d'observer sa course est de tracer d'abord celle-ci suivant les facteurs constants, puis d'introduire ensuite les causes de variation. Mais les éléments perturbateurs du problème social ne sont pas de même nature que les éléments constants. Ils altèrent les sens de l'objet examiné une fois qu'ils ont été introduits. Ils n'opèrent pas mathématiquement, mais chimiquement, introduisant des conditions qui rendent toutes nos connaissances d'alors inapplicables. Je ne douterais pas des conclusions de la science économique si j'acceptais ces termes. Mais elles ne m'intéressent pas plus que les conclusions d'une science de la gymnastique qui soutiendrait que les hommes n'ont pas de squelette. On pourrait montrer avec cette supposition qu'il serait bénéfique de rouler les gymnastes en boule, de les aplatir en galette ou de les étirer en câble. Ces résultats obtenus, le squelette serait réinséré à leur constitution, entraînant divers inconvénients. Le raisonnement pourrait être admirable, les conclusions vraies, et la science seulement déficiente dans son application. L'économie politique moderne est basée sur de semblables raisonnements. Elle imagine l'homme comme un corps sans âme, et construit donc ses lois en conséquence. Comment de telles lois peuvent-elles s'appliquer à l'homme auquel l'âme est un élément prédominant ? L'économie politique n'est pas une science du tout. Elle n'est d'aucune aide quand les ouvriers font grève. Les patrons ont une vue sur la question, les ouvriers une autre. Et aucune économie politique ne peut comprendre cela. Conflit après conflit, on s'efforce vainement de montrer que les intérêts des patrons ne sont pas antagonistes à ceux des ouvriers. En fait, rien n'entraîne que les personnes doivent être antagonistes parce que leurs intérêts le sont. S'il n'y a qu'un morceau de pain dans une maison et que la mère et l'enfant sont affamés, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Si la mère le mange, l'enfant le veut. Si l'enfant le mange, la mère doit travailler le ventre vide. Cela n'induit pas qu'il y ait un antagonisme entre eux, qu'ils vont se battre pour le pain et que la mère étant la plus forte l'obtiendra et le mangera. De façon similaire, il n'est pas certain, parce que leurs intérêts sont divers, que des personnes éprouveront de l'hostilité pour d'autres et utiliseront la violence ou la ruse pour obtenir un avantage. Même si l'on considère les hommes comme n'étant dirigés par aucune influence morale que celle qui affecte les rats ou les porcs, on ne peut montrer d'une façon générale que les intérêts du patron et de l'ouvrier sont opposés. Parce que selon les circonstances, ils peuvent être divergents ou ne pas l'être. C'est en fait l'intérêt des deux que le travail soit correctement fait et que l'ouvrier obtienne un juste salaire. Mais dans la division des profits, le gain de l'un peut être ou ne pas être la perte de l'autre. Ce n'est pas l'intérêt du patron de payer un salaire si bas qu'il laissera l'ouvrier malade et déprimé. Ce n'est pas non plus l'intérêt de l'ouvrier de recevoir un salaire si important qu'il conduise le patron à la faillite. Un chauffeur ne désirerait pas un haut salaire si la compagnie est trop pauvre pour garder la machine en état. C'est pourquoi toute tentative de déduire des règles d'action de la somme des opportunités est vaine. Car aucune action humaine n'a jamais été définie par le Créateur comme guidée par la somme des opportunités, mais par l'équilibre de la justice. Il a donc rendu toutes les tentatives pour déterminer une opportunité toujours plus futiles. Aucun homme ne peut savoir quel sera le résultat ultime pour lui-même ou pour d'autres d'une ligne de conduite donnée. Mais tout homme peut savoir, et la plupart de nous savent, ce qui est juste et injuste. Et nous pouvons tous savoir que les conséquences de la justice seront finalement les meilleures possibles, à la fois pour les autres et pour nous-mêmes, bien que nous ne puissions dire ni quel est le meilleur, ni comment il viendra. Dans le terme de justice, je veux inclure l'affection, celle qu'un homme doit à un autre. Toutes les relations justes entre un dirigeant et un exécutant dépendent finalement de cela. Considérons par exemple la situation des serviteurs domestiques. Nous supposerons que le maître de maison essaie seulement d'obtenir autant de travail de ses serviteurs qu'il le peut au salaire qu'il leur donne. Il ne leur permet jamais d'être désœuvrés. Il les nourrit et les loge aussi mal qu'ils puissent le supporter. En faisant cela, il n'y a aucune violation de sa part de ce qui est communément appelé justice. Il emploie les domestiques pour la totalité de leur temps et pour tout service, les limites de sa rigueur étant fixées par la pratique des autres maîtres des environs. Si le serviteur peut obtenir une meilleure place, il est libre de la prendre. Ceci est la vision politico-économique de cette situation en accord avec les docteurs de cette science qui affirment que par cette procédure, la plus grande quantité moyenne de travail sera obtenue du serviteur et dont le plus grand bénéfice pour la communauté et à travers la communauté au serviteur lui-même. Ce n'est pourtant pas le cas. Seul serait si le serviteur était une machine dont la puissance motrice est